Le hockey de bottines ou de rue, qui s'est tenu à Sacré-Cœur sur la côte nord du Québec. Et Jocelyn Hébert a quant à lui rencontré Anne-Marie Dion-Côté, professeure de biologie à l'Université de Moncton, pour analyser les conséquences de la fuite de données dont a été victime l'entreprise 23andMe, l'entreprise qui garde en réserve, entre autres, les
Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de César, comment vas-tu?
Bien et toi?
Très bien, merci. Et du seul et unique Marc-André, comment vas-tu ce matin?
Buongiorno.
Buongiorno, amico.
Bon matin tout le monde.
Where's your espresso?
Si.
Bon matin. Hey, quel accueil avec une foule en délire. Vraiment, c'était
très tôt. Hein, le monde.
On est populaire au lendemain de la veille. On approche le 100e épisode, semble-t-il.
Ben oui. Ben,
déjà.
On serait peut-être les Wayne Gretzky aujourd'hui, on serait peut-être 99.
Oh. Peut-être. On est déjà au 99e épisode.
Ben oui. Ben on ne s'est pas arraché la tête, on ne s'est pas envoyé chier, on ne s'est pas renversé de café.
Pas encore.
On ne s'est pas pitché de toast. Ça s'en vient, mais...
Le café n'était pas brûlé un matin.
Le café était bon ce matin. Ouais. Merci, Marc-André. Mais oui, effectivement, on vous prépare un petit quelque chose pour le 100e épisode.
Tu mets la barre haute.
Je mets la barre haute. On va essayer de vous préparer une émission fantasmagorique.
Éclectique.
Éclectique.
La bonne musique.
Comme qu'on fait toujours.
Ben oui, exactement. Ouais, ben, il faut le souligner que, bon, ça fait plusieurs épisodes qu'on enfile et on arrive à 100 épisodes déjà.
On est des professionnels.
Donc, bravo à nous.
Oui.
faut le reconnaître.
Ben oui. Ah
ouais. Et on
s'applaudit. Bravo.
Bravo.
Hey, ça s'en vient. Préparez-vous.
On n'est pas encore rendu à 100, mais ça s'en vient. Mais
faut toffer le
99e. Ben ouais, c'est ça. Faut toffer l'épisode 100. D'aujourd'hui, déjà là. Faut se rendre jusqu'à la fin de l'épisode. Et ben c'est ça. Je nous souhaite un autre 100 épisodes.
Un autre 100,
ouais. Un autre 100. On se regarde dans les yeux. On se regarde.
Ah ouais.
2024, année 50.
Si les gens de CKUT veulent nous garder, évidemment,
ah ouais,
on l'espère.
Ouais.
On les aime,
CKUT. Pour l'instant, ça va bien. Donc, on apprécie beaucoup les ondes FM de 90,3.
Du campus de l'Université McGill.
Exactement.
À Montréal, all Québec, right. Canada, represent.
All right.
Alors, aujourd'hui, à l'émission, Marc-André, qu'est-ce que tu nous as concocté?
Ben, super belle émission, comme d'habitude. Je vais laisser, j'envoie le micro à César pour qu'il nous parle de l'introduction de cette belle pièce musicale-là.
Ouais, on a joué du Chris Cornell de l'album Songbook, sorti en 2011. Album live qui met un peu en résumé de sa tournée qu'il avait faite en 2010-2011, tournée acoustique, qu'il venait... il a sorti quelques trucs après la rupture de son band Audioslave, puis il a décidé de faire une tournée lui tout seul avec sa guitare acoustique, que malheureusement, j'ai manqué.
Il était venu à Montréal?
Il était venu à Montréal. Je me suis dit, je vais aller la prochaine fois. Je ne pouvais pas aller là, pour whatever la raison qui était. Fait que, tu sais, il jouait du Michael Jackson, Zeppelin, évidemment du Audioslave, Soundgarden, puis ses albums solo. Mais quand même, très le fun de voir rejouer. Il y a des albums. Moi, pour lundi matin, on nous a joué Like a Stone, qui est le cover de Audioslave, un des. Les grosses chansons de leur répertoire. Puis il a juste joué un peu plus tranquille que comparé à la chanson de Like a Stone, qu'il y a le fameux solo de Tom Morello qui part aux deux tiers au bridge. Mais quand même, des bonnes tracks, il va plus fort, il laisse toutes ses émotions comme Wide Awake, même Black Hole Sun, ça sonne très bien. Il joue Imagine, je pense que c'est le cover de John Lennon. Fait que je vous recommande très fort. Surtout les gros fans de Soundgarden, Audioslave comme moi, que j'ai toujours apprécié sa voix, qu'on parlait tantôt off-air des chanteurs grunge, ouais. Qu'ils avaient vraiment le blues dans leur cœur.
Ouais.
Stan, le gars de Alice in Chains, j'oublie son nom.
Stan Gibbon,
Stanley, en tout cas, j'oublie son nom, mais on va dire Alice in Chains, on va dire Stone Temple Pilots, Scott Weiland. Puis il y a un autre extrême, tu sais, même le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, il y avait vraiment une belle voix. En tout cas, c'est toutes des belles voix de rock, ils sont toutes partis dans l'autre monde, malheureusement. Fait qu'un shout-out à ces grands chanteurs.
Ouais, Chris Cornell, qui avait vraiment une voix
particulière.
Vraiment, c'est ça.
Particulière,
exactement. Ça.
Ouais.
Il n'y a vraiment pas d'autre voix comme la sienne.
Non, t'sais. C'était très soulful. Puis même, si tu écoutes les premiers albums de Soundgarden, c'est vraiment très Black Sabbath.
Oui.
Fait qu'il y avait le grand cri très mal. Puis après, tranquillement, il s'est juste stripped un peu le son. Puis plus vulnérable, plus blues, plus soulful. Puis même comme Black Hole Sun, comment il chante, il joue avec la mélodie. Puis le répertoire de Audioslave va vraiment dans les roots de rock des années 60-70, comment pousser la mélodie avec sa voix. Moi, je trouve le répertoire d'Audioslave quand même élevé pour moi, juste comment il a vraiment exploré sa voix puis tout. Fait que,
Audioslave, moi, personnellement, j'ai pas tant connu parce que j'étais encore en deuil de Rage Against the Machine. Alors, c'était difficile d'accepter que ces musiciens-là jouent encore de la musique avec un autre nom de band.
Mais c'était ça le problème dans le temps, en 2001-2002. C'est comme, c'est quoi ça? Fait qu'il y avait vraiment une division entre les fans de Soundgarden puis Rage. C'était vraiment le mariage le plus bizarre.
Ouais.
On sentait la gimmick un petit peu.
Ouais, ouais.
Mais c'était, ça sonnait
mais c'était
gimmick.
C'était pas ça, mais...
C'était pas ça. Fait que tu l'écoutes, mais je pense que c'était trop... Ils étaient vraiment à l'avance... Ouais. De leurs intentions. T'écoutes ça maintenant, tu peux y comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était vraiment, tu sais, surtout avec notre palette très raffinée avec les temps. Mais tu sais, Audioslave, t'écoutes le premier album, c'est très intéressant qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Puis même le deuxième album, c'est un peu plus, pas plus tranquille. Puis le troisième, Revelations, qui retourne un peu plus aux roots de rock, plus early Zeppelin, Sabbath, très, même un peu de Earth, Wind and Fire, les affaires de main. Tu sais, c'est plus. Il y a plus de groove.
Okay, ouais.
Mais quand même, il y a des chansons un peu plus épiques, plus ça frappe et ça joue très fort. Fait que moi, je trouve le catalogue de ça, je le prends à cœur vraiment à n'importe qui explore, voir en trois albums qu'est-ce qu'ils ont pu faire.
Okay.
C'est là, quand ils ont cassé, ben évidemment, Rage ça s'est reformé. Plus tard, Soundgarden s'est reformé. Mais avant qu'il décède, il parlait de reformer Audioslave une autre fois. Fait que c'était vraiment le moment que... Puis heureusement, Tom Morell, il a pu jouer quelques chansons avec Chris Cornell en 2016-2017. Fait que c'était vraiment comme le début de la conversation qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient reformer Audioslave. Fait que c'était des gros what if le quatrième album aurait sorti. Fait que...
Mais c'est jamais arrivé.
Mais c'est correct, on a trois albums immortalisés.
Mais c'est spécial parce que Rage Against the Machine, c'est trois albums. Si on enlève l'album de
Covers.
De Cover,
c'est
trois albums de Rage, trois albums de Audioslave.
Ouais.
Soundgarden, il y en a plus, mais en gros, c'est les trois premiers. C'est Loud Love, Bad Mother Finger, puis celui qui a Black Hole Sun. Après ça...
Super Unknown.
Le troisième, c'est Super Unknown?
C'est Super
Unknown. Ou c'est le quatrième, en tout cas. Fait que, après ça, ils en ont fait d'autres, mais le retour, c'est pour moi...
Ouais, j'essaie d'écouter King Animal, puis j'ai difficile à embarquer dessus, mais ils ont déjà un gros catalogue, un vaste catalogue que genre, tu mets un Greatest Hits, puis tu peux comprendre c'est qui ça, Soundgarden.
Ouais, mais que tu l'as très bien dit, il a su marier des voix agressives et des voix très, très tranquilles. C'est l'intensité, c'est jouer ces deux phases-là.
Il y avait une maturité dans sa façon de chanter puis comment composer ses chansons. Fait que ça revient un peu comme on parlait de Tony Williams, le drummer de Miles Davis. Ils étaient jeunes, mais ils avaient déjà une grande connaissance musicale, maturité musicale. Puis tu les vois comment ça... Ça sort après dans les albums, puis on devient des fans instantanés parce qu'ils sont complètement différents de la gang. Fait que, shout-outs.
Chris.
Excellent, Chris Cornell. Et on change de sujet, Marc-André.
Oui, on va parler de livres, de littérature. Et là, il y a un gros comeback, un peu comme Audioslave et tout. Chris Cornell, Millennium.
Millennium, les romans policiers... Suédois? On n'est pas sûr.
Oui, ouais, c'est traduit du suédois. Moi, j'ai la version française parue sur Acte Noir, Acte Sud en France. Et c'est une traduction parce que mon suédois n'est pas à point, malheureusement.
Ouais.
Et là, c'est le même univers qu'on a connu avec Lig Starson dans les trois premiers.
Stieg Larsson,
qu'est-ce que j'ai dit?
Lig Starson.
Je suis dyslexique ce matin.
Pas grave.
C'est
du suédois.
C'est du suédois.
À 8h le matin.
Près,
là.
À peu près. On est à peu près. Puis Millennium, tout le monde sait c'est quoi. Fait que là, Lisbeth et Michael.
Ben, je t'arrête tout de suite parce que là, c'est pas le même auteur.
Non, c'est ça. Les trois premiers, c'est l'auteur que je viens de massacrer le nom.
Stieg Larsson.
Merci. Il est décédé. Et là, ils ont décidé de continuer la série parce qu'elle a eu un succès planétaire mondial.
Après sa mort,
il y a eu des films et il y a eu une télésérie suédoise aussi. Fait que ça a eu un énorme impact, un énorme succès. Et ils ont décidé de continuer la franchise. Il y a de l'argent à faire, c'est sûr qu'on le fait. Je suis pas sûr que l'auteur, dans sa tombe, doit se revirer.
Ouais.
Parce que il y a personne qui est arrivé à la cheville du travail colossal. C'est une fiction, mais il y a un côté très... je dirais, sociologique, anthropologique, historien.
Ouais,
name it, c'est, si vous les avez pas lus, allez pas voir les films, les séries, sont quand même très bien faites. Allez lire les livres. On embarque, là, c'est des page-turners, comme on dit, des tournes de page en français.
Ouais.
Et c'est incroyable. Et là, on a une nouvelle autrice, parce que là, il y avait eu, un autre auteur, un homme. Et là, ils ont donné le contrat pour les trois prochains. Fait que là, on a comme une trilogie qui s'en vient. Celui que j'ai entre les mains, c'est le premier, je vais lire le titre. C'est « La fille dans les serres de l'aigle ».
OK.
Et c'est écrit par Karine Smirnoff.
Ah bon?
À mettre avec du jus d'orange le matin, c'est,
ben
ça,
ouais,
la,
c'est ça.
La petite vodka. Là.
Un petit screwdriver.
La vodka, comme on dirait. En québécois.
Yum.
Fait que là, elle, cette autrice-là, est née en 1964 dans le nord de la Suède. Fait qu'elle reste, là, dans, elle reste dans le game. Elle a gagné un prix littéraire en 2018 avec un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Mon frère. Puis elle a aussi commencé le premier tome de la trilogie de Jana. Fait que ça, je vais sûrement aller lire ça. Qui s'est vendu à 800 000 exemplaires en Suède. Fait qu'elle a, c'est déjà une autrice à succès. C'est pas un ghostwriter. C'est
ouais.
pas un kidam pris dans la rue puis tu vas écrire la suite de Millennium. Elle était déjà une autrice. Elle a déjà sa marque, on peut dire.
Okay.
Et là, ils ont donné le contrat. C'est le premier, comme je disais. Là, c'est le septième volet de la saga Millennium. Fait que la vraie saga, c'est les trois albums, les trois premiers livres. Puis là, elle commence une nouvelle trilogie. Et là, on a les personnages principaux, merci. Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist.
Blomkvist.
Tu vois son suédois, ton cousin, il est
c'est bon,
excellent,
César.
Il s'accroche. Hey, je vais te le faire lire. tu vois. Moi, je vais pouvoir prendre une petite sip de café.
Je prenais des cours de suédois. Ouais.
Matin, non?
Tôt le matin.
Tôt,
attends, je vais préparer un screwdriver, comme il dit. On va que je dérange.
Donc, nouvelle Eldorado de l'énergie verte, le nord de la Suède et en particulier Kaskas attire des entreprises avides de gains et des bandes criminelles pressées de s'enrichir. C'est pour un autre motif que Lisbeth Salander y débarque. Sa nièce Svala, la fille de son détestable demi-frère, vit là-haut, seule et désormais livrée à elle-même depuis que sa mère a disparu. Vers Gaskas se dirige aussi Mikael Blomkvist afin de célébrer le mariage de sa fille, mais il honore que l'homme qu'elle épouse est un idylle municipal à l'ambition démesurée, aux fréquentations dangereuses et aux pratiques des plus illégales. Quand les forces du mal se déchaînent, Blomkvist et Salander sont pris dans la tourmente, séparés mais unis comme au premier jour de Millennium. En reprenant les rênes de la saga aux millions de lecteurs, Karine Smirnoff signe un thriller palpitant et d'une actualité brûlante avec en toile de fond les conflits mal assumés des pays nordiques à l'heure de la transition écologique.
Exactement. C'est bien dit, c'est bien...
C'est bien écrit.
C'est bien écrit.
C'est bien lu aussi.
C'est pas lui qui l'a écrit. Ça.
Ah non, mais il l'a bien lu.
Il l'a bien lu.
Ouais. Troisième trilogie. Moi, j'ai juste vu les films, la première, puis la version de David Fincher, de Dragon's Tattoo.
Oui, il avait juste fait la première, hein, avec le revenge.
Ouais, je m'attendais qu'il allait faire une trilogie, parce que David Fincher, il a vraiment l'œil pour ça, mais malheureusement, ça a juste fait un film.
Ça a-tu fait un flop? Est-ce que ça n'a pas marché? Ou...
Je pense que c'est plus les studios, parce que... C'était quand même bien fait. C'était dans le temps que j'ai vu la trilogie suédoise en film. Puis après, j'ai vu la version David Fincher. Puis je le trouvais esthétiquement supérieur à la version suédoise. Il y a plus de budget, évidemment.
Ouais.
Mais tu sais, je me dis, OK, cool. On s'en va dans cette direction-là. Puis malheureusement, il n'y a juste rien eu.
Ouais, ils l'ont pas
oublié. Puis honnêtement, c'est correct.
Habituellement, Hollywood, s'ils font pas de suite. C'est parce qu'ils n'ont pas fait assez d'argent.
Pas assez d'argent, mais...
Actuellement.
Puis c'est David Fincher, fait que je pense que David Fincher, il est reconnu pour être très méticuleux, perfectionniste pour ses films, fait que peut-être il voulait avoir quelqu'un qui allait sortir des films
ça
gauche à droite.
Ouais.
Ça coûte moins cher, puis ça sort tout de suite quand le studio veut, fait que Fincher, il a quand même un catalogue très beau, puis à son rythme, fait que je pense que ça fait du sens qu'ils ont arrêté avec...
C'est ça nous a laissé sur notre faim parce que c'est tout le temps le fun, Millennium, de voir les différents formats. Ils ont même fait une bande dessinée.
Mmh. C'est vrai.
Puis ils ont fait des bandes dessinées que je me disais, des on va dire, des à côté, là, des des side projects de l'univers de Millennium. Et là, je me dis, OK, là, ça sent l'arnaque. Ils vont diluer le propos, l'intelligence. Et non, le dessin est sa coche. Et l'histoire, c'est vraiment fidèle à l'auteur original. Nice. Là, tu l'as très bien dit, tu l'as très bien décrit. Là, c'est la ruée vers l'or, mais la ruée vers l'or dans le nord, là-bas, de mettre des parcs d'éoliennes.
Ouais, okay,
fait que là, il y a des territoires, des lapons, qui, des communautés qui vivent des reines. Dans le Grand Nord. Qui vivent des reines, de l'élevage des reines, qui vit de ça. Toute leur économie est basée sur l'élevage de ces bêtes-là, de ces troupeaux-là, et de la nourriture et de tout ce que ça apporte. Mais là, tout ça va être... ils vont être comme mis de côté... pour, même si c'est juste planter une éolienne, il faut qu'ils construisent alentour. Et là, ça fait des villages. Ben là, les villages font des villes. Fait que là, il y a une grande tension municipale. La communauté locale qui est métisse des Suédois, puis autochtones. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux.
Okay.
Puis ça doit être basé un peu sur qu'est-ce qui se passe pour de vrai.
Ben oui, c'est sûr que
c'est pas de la fiction.
Exact.
Mm-hmm. J'étais pas au courant que c'était quoi la communauté dans le nord, nom de Scandinave.
La Laponie, si je me trompe pas. Ouais. C'est le nom de la région.
Ouais. Fait que c'est des communautés autochtones, puis tout ça. Fait qu'il y a tout ça. Et là, nos deux héros sont pris avec un nouveau vilain qui veut... rentrer dans cette énergie, on va dire, non polluante, mais elle est peut-être non polluante, mais elle a des conséquences sociales, comme je dis, sur ces communautés-là, puis sur des gens qui habitent là, puis qui veulent pas, dans leur cour, pour X, Y raison, avoir ça. Ça va faire du bruit. Deux, est-ce que le bétail va rester? Il leur donne c'est sûr qu'ils leur donnent de l'argent, ils font pas ça gratuitement, mais Il y a de la magouille. Ça sent la magouille comme seule la politique et les prospecteurs, on va dire, immobiliers et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a encore des hackers. On sait que Lisbeth là-dedans est devenue consultante officielle. Elle a comme un emploi officiel avec, si vous vous rappelez la série, sur une compagnie qui s'occupe de sécurité informatique. Fait que là, elle est conseillère, puis elle a vraiment un titre officiel, parce qu'avant, c'était comme une
pirate. Ouais, c'était un hacker.
Mais là, elle a comme un blouson, on va dire, officiel, même si elle fait bien des affaires on the side, comme on la connaît. Fait que le retour, retrouver nos deux héros principaux, Michael et Lisbeth, et là, ils rajoutent un nouveau personnage féminin, qui est la jeune nièce de son frère, à Lisbeth, qui était l'espèce de méchant qui recevait des coups, qui travaillait comme avec une bande de motards, mais qui ressent pas la douleur.
Ah oui?
Fait qu'elle, sa fille...
C'était son demi-frère dans la première trilogie?
C'est son demi-frère.
J'ai complètement oublié ça. Ouais. Je me rappelle le gars qui sentait pas la douleur, mais je ne savais pas si c'était son demi-frère.
C'est son demi-frère, okay. De son père Zatchenko. Je sais pas comment le prononcer, mais en tout cas... Fait que c'est sa nièce, puis elle aussi elle a un don particulier, et c'est ce qu'on apprend là-dessus. Fait que ça, c'est la prémisse de la trilogie, parce que là, on reste un petit peu sur notre fin, bon déjeuner tout le monde, parce que il n'y a pas de fin. Il n'y a pas une vraie fin, parce que les méchants sont encore en liberté, merci, c'est ça. C'est pour nous préparer à ce qui s'en vient. Okay. Et je trouve que cette autrice-là, que je répète son nom, Karine Smirnoff, est meilleur que celui qu'on avait eu entre
la deuxième trilogie.
Oui, exactement. Okay. Fait que c'est très prometteur, c'est excellent. La fille dans les serres de l'aigle, ça se lit. On tourne les pages vite. Et là, j'avais gardé un petit extrait. Tiens, Nelson, tu as l'air endormi ce matin, je vais te le faire lire.
Oui, j'ai besoin de me réveiller un petit peu.
C'est le personnage d'un méchant, là, vous allez le découvrir. Il s'appelle Peder Sandberg. Et là, il y a un petit extrait de comment il voit la vision du monde. C'est un petit paragraphe. Vas-y.
Alors, j'y vais. Alors, comment atteindre un changement de la société en profondeur? Il faut commencer par les leaders politiques corrompus qui prêchent la globalisation, le multiculturalisme et l'immigration de masse. Dans les systèmes politiques, les appareils d'État et les partis derrière eux, il y a également un grand nombre de subalternes qu'il faudrait éliminer. Oui, mes amis, éliminer. Personne ne pose la vraie question. comment la Terre va-t-elle survivre?
Hein?
C'est un genre de néo-nazi.
Oui, ouais, c'est un gars de droite. Là. Fait que c'est à ce genre de méchant-là, ça, c'est pas nous qui disons ça, c'est un extrait du livre de Millennium. On voit dans quelle ambiance les pouvoirs politiques et le nouveau méchant de Millennium est. Et ça joue fort. Et un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une cache, on va dire, en cas de guerre nucléaire ou de qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, des bunkers, mais enfuis en Suède. Mmh. Et là, on découvre ça et il paraît que ça existe pour de vrai. Et là, eux, c'était abandonné et ces méchants-là se sont infiltrés dans ces bases souterraines-là qui sont intactes, qui sont l'abri du temps. Et je veux dire, tu t'emmènes un laptop, je sais pas comment que le Wi-Fi se rend là, mais puis les hackers, puis tout ça. Mais c'est ce genre de nouveau fou, furieux, savant, capoté, là, qui a sa nouvelle vision du Disorder World.
New World Order.
Il veut tout détruire pour recommencer à neuf.
À neuf, ouais.
J'ai vu ça dans un James Bond à un moment donné aussi.
C'est ça que j'allais dire, ça me fait un vilain écologique qui veut nettoyer la Terre.
Il veut comme éliminer les grandes puissances pour recommencer.
Je pense que c'est toute la série James Bond.
Ouais, il y a beaucoup de vilains comme ça, qui voulaient juste tuer tout le monde.
Exact.
Ils font un petit ménage.
Ils se sont tassés de côté par les grands corrupts. Puis après, ils veulent prendre vengeance.
Ils veulent prendre le pouvoir, puis ils vont faire exactement la même chose ou le pire. Et c'est là qu'on a un État totalitaire, dictateur. Fait que c'est, si vous aimez ce genre de polar fiction, désordre mondial, un petit peu conspiracy, un petit peu hacker, c'est pour vous.
Nice. Ça fait penser, je fais une petite parenthèse avec les bunkers que tu mentionnais en Suède, mais récemment j'ai vu, c'était à Infoman, récemment, il y a quelques mois.
Il
n'y
a pas ça au Québec?
Non.
Dans le nord du Québec?
Non, aucunement. Il est allé faire une émission complète en Norvège ou en Finlande. Non, en Finlande, je ne me trompe pas, oui. Puis il est allé, j'ai oublié c'est quoi le nom de la capitale de la Norvège.
Oslo.
Ouais, je pense que c'était à Oslo, exactement. Puis il a fait un tour guidé des bunkers qui sont sous la ville. Puis c'est des bunkers qui datent de la
Deuxième Guerre.
Je pense, la Deuxième Guerre, ouais. Puis les bunkers sont immenses, tellement grands que c'est conçu que toute la ville puisse se réfugier si jamais il y avait vraiment une menace nucléaire. Alors, ce qui fait que le bunker, il est super gros. C'est comme un gros réseau souterrain.
Wow.
Assez gros pour avoir des camions qui rentrent dedans. Il y a des piscines, des gymnases, des centres communautaires. C'est immense. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ces bunkers-là, évidemment, sont pas utilisés pour une menace nucléaire. Mais ils ont été convertis en plein de choses utiles.
Ah ouais, okay,
donc, il y a des centres sportifs, des piscines, des stationnements. Puis qui sont vraiment tout utilisés. Puis que il expliquait qu'en quelques heures, peut-être quelques jours ou quelques heures, il pourrait tout convertir ça en réel bunker s'il y avait à nouveau une menace nucléaire. Wow. Mais c'est vraiment fascinant à quel point c'était super bien organisé, puis que c'est encore utilisé aujourd'hui, mais à des fins plus récréatives.
Y a-tu un Costco si t'as faim? Mais
sans blague, ils ont tout réfléchi.
Ouais.
Fait que t'as de la ventilation, t'as de l'électricité, évidemment, puis t'as plein de ressources. Puis là, comme c'est là, il y a plein de gens qui vont là. Tu sais, t'as des centres sportifs.
T'as-tu du Wi-Fi?
Sûrement.
Ah, les hackers peuvent.
Sûrement.
Ils sont très forts en technologie dans ce coin-là.
Ben non, c'est impressionnant. Ouais, c'est cool. C'est même un bel endroit. Tu sais, c'est comme tout bien propre, tout bien aménagé. Il n'y a pas de vieille poussière. C'est pas comme.
Comme on s'imagine.
Non, c'est pas à laisser à l'abandon, aucunement. Okay. Là. C'est comme bien éclairé, tout clean, bien peinturé. Ça porte l'air de bunker, en fait.
On se prend des billets d'avion, je vais aller voir ça.
Oui, vraiment.
Ça a l'air intéressant.
Infoman, ça fait penser à Millennium.
C'est super bien décrit dans ça, dans Millennium. Fait que notre imagination s'imagine, t'sais, avec les films qu'on a vus et les reportages, puis on mélange tout ça, puis il y a un côté comme wow, ça. T'sais, c'est des labyrinthes en plus.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est fou.
Fait que, bref. C'est vraiment intéressant.
On va y aller en pause parce que je vais avoir d'autres films à vous proposer et une super bande dessinée qui s'appelle Utopie.
All right. Oh, parfait. Donc, restez sur les ondes de CKUT 90,3 FM.
Our memories as a community are the heart of our legacy, helping us create a journey down the lanes of time. Do you have photos, videos, or audio recordings of West Cannes performances, rehearsals, or events? We want them all. We are building a special archive to showcase the beautiful moments we've shared together. Dust off those old photo albums, dig into your video archives, and share your West Cannes memories with us. Simply contact 514-641-9149. Let us relive the joy, laughter, and the cultural richness that has defined West Cannes for almost 50 years.
Ha ha ha! Oui, vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient de finir une pièce. C'était-tu le Joker, ça, à la fin de la pièce?
Ouais, c'est toi, Joker.
Jack Nicholson.
C'était-tu toi qui riais ou quoi, là?
C'était pas moi. C'est qui qu'on écoutait, Marc-André?
On écoutait Señor Flavio! Je me réveille. Señor Flavio de Los Fabulosos Cadillacs, le génie le compositeur principal de ce super groupe de Buenos Aires, Argentina. Ce gars-là, depuis longtemps, il a des projets solo avec ses fils. Et ses fils, il les a fait pratiquer dans son projet solo. Et une année, il a dit, j'ai rapatrié dans Los Fabulosos Cadillac. Fait qu'il y en a un qui drum ou il fait de la percussion. T'as un guitariste. Et t'as, tous ses enfants font du surf. Sa fille, c'est une, pas une championne, mais elle est très impressionnante.
Il y a combien, il y a combien d'enfants,
sont
senior?
Deux gars puis une fille.
Ah, OK.
Ils sont tous dans le sport, sport extrême, skateboard. Le monsieur, il est rendu à 60 ans, il fait du skateboard, il fait du surf, il fait de l'art martial, je pense qu'il fait du, pas capoeira, il fait du jiu-jitsu, puis du, c'est quoi l'autre art martial le brésilien? Du
jiu-jitsu brésilien.
Ouais, il y a une autre affaire aussi qu'il fait, puis il est assez au là-dedans. Puis lui, ben c'est un bassiste. Quand il fait ça, c'est son fils qui drumait. Sa pochette, c'est la nouvelle ola, ça veut dire la nouvelle vague.
Uh-huh.
Et son petit gars, il a quoi, à peu près?
Il a l'air comme 10 ans. 15.
Exactement, il y a 10-12 ans.
Au drum. Wow.
Fait que
c'est ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est son fils qui drum.
Nice.
Et son père joue, il chante naturellement. Il joue, c'est un bassiste de formation, mais il joue de la guitare sur cet album-là. Et il y a d'autres amis qui viennent jammer. Mais c'est son projet solo. Il y a 2-3 albums du Seigneur Flavio que je vous incite à découvrir. Il peut passer du ska au rock argentin, au rock psychédélique des années 70, des petites pièces de 2-3 minutes, à du punk rock, à il touche à tout le monsieur, mais il se fait plaisir dans ce band-là. Avec les Fabulosos Cadillac, des fois, c'est des tunes de 7-8 minutes, puis il y a du Latin flavor, puis tout ça. Là-dedans, c'est un peu plus des tunes radio-friendly là, de 2-3 minutes, mais c'est super intéressant. Et ça, je cherchais depuis longtemps et je l'ai trouvé dans mon périple au Mexique en novembre 2023.
Oh, nice.
Et j'étais très content. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit « ça se peut pas ». C'est un CD usagé, mais c'était dans la Romana, qui est la Roma, le quartier hipster un peu. Et ils vendent les vinyles à des prix des fois très chers. Et les CD, comme partout ailleurs, ils s'en foutent. Puis là, je disais « t'as-tu, qu'est-ce que t'as de Seigneur Flavio? » Puis il dit « ah, oh, en vinyle, il n'y a rien. » Mais il dit « peut-être en CD. » Puis il me montre ça, puis ça vaut, j'ai payé 2$, ou 2-3$.
Nice.
2$ canadiens?
Canadiens.
OK.
Mais ça, je cherchais depuis longtemps. Là, il est rare comme la marde de
Pap. Yeah. Alors,
Pap,
le drummer qu'on vient de la pièce qu'on vient d'écouter,
il y a 12 ans.
Avait à peu près 12
à
ans.
Peu près.
Moi, la dernière fois que j'ai entendu un drummer comme ça, c'était le drummer des frères Hanson dans les années 90.
Oh, okay. Ouais, c'est pas le même style. Là, tu me fais de la peine. Là. C'est comme une insulte, tu fais à moi.
Il était bon, hein? Boom bop, doo-dap, doo-dap.
C'est vrai?
T'en souviens-tu?
Il fait encore de la musique, ces gars-là.
Tu sais qui avait produit cette chanson-là?
Non.
Tu serais surpris. Me semble, si ma mémoire est bonne, c'est les Dust Brothers, ça dit quoi?
Ah ouais, ben les Dust Brothers, ben oui.
Ils sont dans les Beastie Boys.
Les Beasties, Pulse Boutique. Beck,
au
delay.
Ouais, j'allais dire ça aussi, ouais.
Fait qu'ils ont fait...
Hanson.
Boom, bap. C'était un contrat pour payer le deuxième chalet, la quatrième hypothèque sur la quatrième maison en Europe.
Mais quand même, fallait le faire, là, tu sais. Trois garçons. Ben, il y a le grand frère qui avait l'air d'un jeune adulte, là. Je sais pas, il avait quel âge, là, à cette époque-là.
Ouais.
17.
Fallait le faire, là.
C'était des mineurs.
Le garçon au drum, là, il avait quoi, 10-12 ans, puis
ouais.
Il assurait, là.
Ça, hey, pas... passe de Dutchie avant eux. C'était,
ah ouais,
c'était une fratrie.
C'était pas les premiers.
Hein?
Musical Youth.
Ouais, Musical Youth.
Exact.
Tout ça pour dire, moi j'ai eu la chance de le voir drummer quand il était ticu au Pérou dans un stade. Son père l'emmenait avec lui quand il faisait les tournées de Los Fabulosos Cadillac. Puis il faisait des covers des Clash.
Okay.
Puis sur deux tunes, vers la trois quarts de la fin du show, il faisait monter son fils sur stage et il drummait. Et là, je l'ai vu cette année au Mexique. Et là, c'est un jeune homme de 18-20 ans. Là, je ne sais pas l'âge exact. Et il est aussi incroyable. Et le guitariste aussi.
Wow.
Tout ça pour dire que le père, c'est un... Si je vous dis l'expression « goofy », qu'est-ce que ça vous dit en musique? Ou en sport?
Sport, je ne peux pas dire, mais « goofy », plus comme un peu comique, un peu lousse, un peu loufoque.
Je te donne pas de points.
Mais la question n'est pas claire, Marc-André. Okay, ça nous fait penser.
Ce musicien-là, on le traite de goofy. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut.
Ben, qui est maladroit, qui est gauche.
Oui, mais. C'est un virtuose.
Deux points moins pour toi, Marc.
Ouais. Goofy. OK, ma question était peut-être pas claire. Ouais. Goofy, dans si tu je vais vous donner un exemple. Si tu fais du skateboard, ouais. t'es un droitier, je mets mon pied sur le sur le nose en avant droit, puis je pousse avec mon pied gauche. Fait que moi, je suis un skater normal. Si je mets mon pied gauche devant. Sur le nose devant et je pousse avec la droite, je suis un skater goofy.
Goofy.
Jimi Hendrix, c'est un goofy.
Mm. Ah ouais, il faisait du skate, Jimi Hendrix?
Non, Jimi Hendrix jouait de la guitare.
Mais pourquoi on parle de skate, Marc-André? Je comprends
parce
rien.
Parce que Jimi Hendrix jouait de la guitare.
C'est vrai?
Côté...
gauche.
Il était gaucher.
OK.
Fait que là, quand tu joues, parce que les instruments sont faits pour un droitier qui gratte et que tu fais les accords de la main gauche.
Ouais.
Quand c'est le contraire, ton instrument est goofy. Je pensais que vous
savez ça.
Ben, en termes de sport de skate, oui. Ouais. Mais ta question n'était pas...
Ouais, en termes
ouais c'était pas clair, Marc-André.
Fait 10 points de moins pour toi.
Basis-là, OK, je m'auto-élimine de la course, même si j'avais la réponse. Lui, il joue de la 7 cordes, de la bass, 7 cordes, souvent fretless, ou des fois avec des frets, et il est goofy. Fait qu'essaye de trouver une basse, une guitare. Tu peux pas aller prendre la guitare de ton fils ou de quelqu'un d'autre qui joue du bon bord, on va dire, excusez pour les gauchers.
Droitier.
Lui, il faut tout le temps que ses instruments soient de l'autre côté.
Fait que donc, lui étant le père, Seigneur Flavio.
Seigneur Flavio.
OK.
Bassiste, compositeur des Los Fabulosos.
Fait que comme il est gaucher, ben sa musique, c'est de la merde. C'est ça que tu veux dire?
Non, elle est excellente.
Ah, c'est très bon.
C'est excellent.
Ah, puis Jimi Hendrix aussi, il est bon. Hein?
Jimmy, il est excellent. Moi, je veux remettre la torture que les gauchers ont eue depuis l'enfance de change de main, change de bord, dessine de ta main droite.
Pendant longtemps, c'était ça.
Un exemple, mon pépé. Mon papa, il était dans une école de religieux, comme c'était ça dans le temps. D'école classique, merci. Et il écrit pas de la main droite, il écrit de la main gauche. Et qu'est-ce que tu penses que les frères faisaient, les frères à cette époque-là? Il y avait une longue baguette ou une règle, et il donnait des coups sur la main gauche pour qu'il lâche son crayon de la main gauche, le prenne de la main droite et qu'il écrive de la main droite.
C'est fou, hein?
Fait que mon père, il est ambidextre sur certaines choses manuelles. Il est très manuel, fait que sur certaines choses. Il écrit de la main droite, mais je pense qu'il écrivrait mieux de la main gauche.
C'est vrai.
Parce que de la main droite, il écrit comme un docteur. Fait que sa signature est écœurante, là. Okay. Personne n'est capable de l'imiter. Moi, j'étais pas capable de l'imiter quand j'étais petit.
Oh, c'est tough, ça.
C'était tough, là, de faire un faux Marc-André va être absent, signé le nom de mon père. Parce que c'était un gribouillis de docteur.
Ouais.
Mais c'est ça.
Fait que là, où est-ce que je m'en vais? Ben non, c'est intéressant. Parce que
ton père était goofy aussi.
Il était goofy aussi. Papa goofy, moi je suis bébé goofy.
Ton père, il était comme Jimi Hendrix.
Ouais,
je l'ai Seigneur Flavio.
Exactement.
Mais
on salue.
Ton père faisait pas de skate.
Non, parce que je cherche.
Parce que tu cherches.
Non.
OK.
Les archiduchesses sont archi. Hey, tout ça pour dire.
C'est intéressant quand même.
Ouais, on salue les gauchers. Restez gauchers. Si vous êtes capable d'être ambidex, c'est encore mieux. Moi, là, je connais du monde qui sont capables de peindre et de. Parce que quand tu fais de la canette, là je saute là, du coq à l'âne. Quand tu fais du graffiti, tu fais de la canette. Moi, je suis droitier.
Ah.
Tu es tout le temps avec le doigt
sur la gâchette.
Sur la gâchette et ton doigt s'engourdit. Fait que si tu es ambidex, tu peux prendre ta main gauche et faire la même chose.
OK.
Et tu te fatigues moins.
Tu peux pas juste changer de doigt?
Non, parce que tu as moins de force. Faut que tu pèses sur la valve.
Avec le majeur?
La majeur, c'est un peu plus dur.
Ah, OK.
Fait que si vous êtes ambidex ou gaucher, je vous salue. Je vous donne des morceaux de robot ce matin.
Ouais.
Et je m'en enlève à moi et à mes collègues.
Mais une pensée à tous les gauchers qui ont dû vivre un calvaire quand ils étaient enfants.
Ouais.
Jadis, naguère.
Ouais.
Aujourd'hui, heureusement, c'est plus comme ça.
Non.
Les gauchers sont... Mais par contre, je pense que les gauchers aujourd'hui ont encore de la difficulté. Es-tu gaucher, César?
Non, mon petit frère...
Ton frère est gaucher?
Mon petit frère, oui, il est gaucher.
Mais je pense que ce qui est difficile encore aujourd'hui, c'est les cahiers. Tu sais, par exemple, un cahier spirale ou...
Il est à gauche, oui.
Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement faites pour les gauchers.
Ils ont tous une technique, comment écrire, tu sais, pour pas se salir
le bas
de la main.
Mm-hmm.
Je trouve ça vraiment intéressant...
Mais il y a un commerce qui a été ouvert pour, c'est juste, admettons, des ciseaux gauchers.
Ouais.
Peut-être qu'ils ont des cahiers gauchers, des des choses pour les gauchers. Mm. Il s'appelle Ned Flanders qui l'a ouvert le magasin. Connaissez-vous?
Attends, là, tu parles des Simpsons? Hein? Ah, tabarouette, Marc-André. Moi, je te croyais depuis le début.
Bon, on va parler de films.
On change de sujet.
On change de sujet. Le temps passe.
Ouais. Ouais.
Bon, j'imagine que tu as vu Equilibrium.
Oui, monsieur.
Comment tu l'as trouvé, le film Equilibrium?
J'ai adoré. C'était fait en 2002. On sent que c'est 2002. Je vais te laisser dire l'histoire avant, le propos du film, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été vendu avec
Kristen Bell.
Kristen Bell.
Ouais, c'est un des films underground, avant que sa carrière qui a comme skyrocket avec Batman Begins. Puis en 2001-2002, il y avait... Bon, long story short, il y avait American Psycho, Cult Following. Ça a créé un fanbase, surtout voir c'était qui cet acteur-là. Tout le monde pensait qu'il était américain, mais il avait le plus gros accent Welsh gallois, c'est-tu ça le mot?
Ouais, je pense qu'il
fait Ouais, le plus gros accent. Puis après ça, il était le vilain en Shaft, il était en plein film, il était en Reign of Fire, Matthew McConaughey, Equilibrium qui était encore plus underground, c'était juste un autre cult following. Qu'est-ce qui était vraiment remarquant dans ce film, c'était vraiment le thème, l'atmosphère, même les arts martiaux qu'ils utilisaient, que dans le temps, ils l'ont juste nommé le gun kata, que c'était vraiment un art martiaux avec les deux guns qui se promènent gauche à droite, qui l'ont exploré le même style d'art martiaux en ultraviolette, que c'était pas bon. Mais celui-ci, quand même, tu sais, un gros, grosse influence de 1984 de George Orwell.
Yes.
C'est dans le futur, il y a eu un désastre.
La Troisième Guerre mondiale.
La Troisième Guerre mondiale. Puis, comment on peut. Ils puissent progresser comme société, être qu'il n'y ait plus de tensions, de problèmes. C'est, ils créent une drogue pour éliminer les émotions. Fait que tout le monde sont neutres. Personne ne peut sentir la colère ou la joie.
Fait qu'il n'y avait plus de relations amoureuses, ça veut dire?
Ils avaient des relations amoureuses parce que la société doit se reproduire et tout. Fait que dans le film, tu vois les jeunes quand ils... T'sais, les parents retournent au travail, puis les jeunes, c'est les seuls qui ont un peu d'émotion, mais tu vois que tranquillement, ils vont plus en avoir. Ils commencent à travailler à comment contrôler la population. Fait que tu vois juste
et
que...
Et c'est avec la drogue qui s'appelle le titre du film, Equilibrium.
Ouais.
OK.
Fait que Christian Bale joue comme un genre de soldat élite de cette société-là qui va chercher du monde... qui sont peut-être des potentiels espions, peut-être qu'ils essaient de... Un peu comme le KGB, genre dans le style communiste, qu'ils vont essayer de pogner du monde qui peuvent être des espions puis les éradiquer et tout. Mais lui, c'est le top des tops qui commence à spotter du monde qu'ils peut-être... Ils prennent pas la pilule des affaires de même. Et l'élément déclencheur, c'est que lui, en une journée, il oublie de... Pas il oublie, mais il prend pas sa pilule.
Ah, parce qu'il faut que tu l'apprennes à tous les jours. C'est pas
c'est à tous les jours.
C'est comme un fusil avec une espèce de petite ampoule, puis ça shoot dans le cou chaque jour.
Il y a comme un temps que tout le monde prend, ils s'arrêtent, ils prennent cette injection, sa shot quotidienne. Fait que lui, quelque chose y arrive, je vais pas t'en dire plus, mais il prend pas cette injection-là. Mmh. Fait qu'il commence à avoir quelque chose de bizarre, en tout cas. Puis là, ça revient encore. Puis c'est de là que l'histoire commence à continuer. Puis lui, il commence à avoir des choses un peu bizarres. Puis blablabla. Ça continue. Mais vraiment cool. L'action, tu sais, ça fait déjà 22 ans. Ça a pas bien âgé. Mais quand même, l'intention, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Surtout un film que sûrement il n'y avait pas un gros budget. T'as Sean Bean qui apparaît dans le film, Tay Diggs qui était très populaire dans le début 2000, Emily Watson, puis il y a même un petit cameo au début, qu'est-ce qu'il y a le shootout. Il y a Dominic Purcell qui était l'acteur principal dans Prison Break. Il est dans les premiers 5 minutes du film. Que j'ai appris juste parce que j'étais un gros fan de Equilibrium, que Dominic Purcell allait être l'acteur principal pour Equilibrium, puis ils ont tout changé quand ils ont essayé de mettre Christian Bale à la place. Fait que c'est vraiment intéressant que l'acteur principal, il joue genre les premiers 5 minutes.
Il se fait tuer.
Spoiler alert, il se fait tuer.
Après 5 minutes.
Ouais.
on a fait le
mais
spoiler.
Mais tu sais, il était pas connu parce que je pense... Non, peut-être Prison Break est sorti en même temps. J'avais des amis qui étaient gros fans, puis ils suivaient Prison Break. Puis je pense que c'était genre 2002-2003. Puis Donald Gerson était le vilain connu dans Blade Trinity, qui était le Dracula. Film pas très très bon dans la série de Blade.
Avec Wesley Snipes.
Ah ouais, c'est Snipes. Fait que, ouais, ça c'est pour le monde qui connaît... tous ces films-là...
Tu l'as très bien résumé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est que lui, en français, son rôle, son titre, c'est un recteur. Je sais pas c'est quoi le lien. Le personnage, je l'ai écrit en arrière parce que je retiens jamais
John
les
Preston.
Noms. C'est John Preston, il est le recteur. C'est des nettoyeurs. C'est qu'ils vont dans ton appartement, comme ils rentreraient ici, puis là, ils verraient de la culture, ils verraient de la musique. Les livres sont confisqués, la littérature.
Tout est confisqué. Ouais.
Tout est confisqué. Les toiles, si t'as une toile, la Joconde, le studio est en train de craquer. Oh non,
mais c'est comme un inspecteur parce que il est capable de. Toutes les chambres, tout le monde habite la même façon. Il y a comme pas de décoration. Tout est blanc, gris, les mêmes vêtements. Tout est.
Ouais.
Fait que lui, c'est le meilleur pour spotter s'il y a de quoi de bizarre.
Parce qu'il y a des dissidents qui camoufle des choses. Il y a une trappe dans le plancher. Tu rouvres la trappe, tu descends. Puis là, ils se sont fait un man's cave. Il y a un frigidaire, il y a de la bière, il y a un stéréo, il y a des livres, il y a des peintures. Et là, ils découvrent la Joconde, l'original, là, spoiler attack. Et ils font quelque chose qu'il ne faut pas faire avec les œuvres d'art. Fait qu'il y a un petit côté, comme tu dis, Gestapo, police secrète, tout ça. L'ambiance est très bonne. Oui, ça a mal vieilli à cause de certains effets spéciaux. Il n'y en a pas tant que ça. Mais les décors sont pas faits en CGI. Ils sont faits en carton ou en bois. C'est ça qui est de toute beauté. Les arts plastiques, le lien avec Senor Flavio, ils font une espèce de... Ils sont comme en karatéka, en espèce de kimono noir. Et ils s'entraînent parce qu'il faut que le cerveau soit clean et le corps, faut qu'il soit ferme. Et,
un esprit sain dans un corps sain.
Exactement. Je te donne des points. Là.
Ma scène favorite, c'est quand il rentre dans une des chambres et là, il joue... une espèce de...
Un gramophone. Ouais. L'aiguille tombe par hasard sur le vinyle.
Ouais.
Et là, ça vient les rappeler.
Mais c'est juste comment ça part, cette scène-là.
Ouais.
Puis ça,
c'est magique.
Vraiment, vraiment cool. Puis, en tout cas, c'est le seul spoiler que je veux dire. Ouais. J'ai vraiment aimé comment ils ont juste mis ça dans le film. Puis là, ça part tout. Mais quand même, à part les effets spéciaux, les arts martiaux, la chorégraphie, c'est quand même cool. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire dans le temps? Je pense que...
Le côté Matrix.
Mais tu sais, je pense que ça a vraiment évolué. Comme c'était vraiment les précurseurs. Parce que tu vois, maintenant, les films d'action, il y a vraiment ce style d'arts martiaux, tu vois plus. Mais dans le temps, c'était la première fois qu'ils ont mis un nom. Puis là, ils ont juste...
C'est beaucoup l'influence asiatique, le cinéma asiatique aussi.
Les John Woo 90.
Ouais, c'est ça. Les films d'action qui mélangeaient les arts martiaux, mais de façon Kung Fu, Katana et tout ça.
Ouais.
Comme action urbain, mais,
hey, that's it.
Mais avec des arts martiaux. Mais comme tu l'as mentionné, Marc-André, ça fait penser à La Matrice. C'est sorti dans les mêmes années que La Matrice, à peu près.
Ouais. Un peu avant.
Un peu après, je pense. Non?
Le deuxième...
2003, de ce film-ci, Equilibrium?
2002. Bref.
Reloaded
en 2002. C'est l'air du temps de
se jouer dans
cet univers-là. C'est à voir. Moi, je pense que c'est à voir. Comme tu dis, un petit côté film culte. Et Christian Bale, en français, Bale, est très bon.
Christian Bale.
On traduit les noms de famille maintenant. C'est bon.
Puis, mais c'est la première fois aussi que le titre du film, tu sais, on a pas comme un casse-tête, c'est Equilibrium, ça se dit dans les deux langues.
Equilibrium.
Habituellement, ils te font un titre comme la médecine expérimentale.
Sans émotion.
Sans émotion. Là, t'es comme, what the heck?
Parlant de La Matrice, vous avez-tu vu La Matrice à nouveau?
Non, on en parle s'il te plaît.
Ah non, c'est le quatrième qui est sorti l'année passée.
Il y a le quatrième, mais je parle le premier. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, puis ça a bien
agi. Ah oui, ben
non, le premier, oui, c'est excellent. Moi, je pensais que tu parlais du...
Non, pas le quatrième.
Le dernier, là.
Non, je dis revoir La Matrice. La Matrice.
Il y a des affaires aussi qui ont quand même mal vieilli, que je trouvais, mais...
Mais c'est l'atmosphère qui a... vraiment, ils ont vraiment bien fait, puis ça pogne encore.
Ça vient-tu d'un livre?
Non.
Non? OK.
Les Wachowski ont juste créé ce monde-là, puis ouais. Ça...
Imagine le livre, s'il y aurait
après
livre,
les ça. Films, il y a eu des bandes dessinées.
Des jeux, ouais, ouais, ça crée un monde à part.
Il y a même eu des dessins animés style manga aussi, là. J'ai vu ça passer.
Oui, l'Animatrix. Oui,
c'est ça.
Ils ont pris les meilleurs directeurs dans le temps d'animation japonais pour créer des shorts...
C'est comme quatre... ou un court-métrage.
Comme quatre, cinq, ouais.
Avec des styles tous différents.
Si tu regardes, comme c'est tout... des artistes japonais, fait que c'est difficile à voir qui a fait quoi, mais si tu fais ta petite recherche, ils ont tous fait un show vraiment influençable dans les années 90, puis ils ont vraiment cherché les meilleurs des meilleurs. C'est pour ça que l'Animatrix, tu regardes, il est quand même bien fait à ce jour-ci. Bonne 21 ans.
On va continuer là-dedans, puisque le temps file. J'ai une bande dessinée, c'est le tome, le volume 1 d'une nouvelle trilogie la série complète va être en 3 volumes. Et c'est fait par Rodolphe et Griffo. Et ça s'appelle Utopie. Et là, on est dans le même univers que 1984. Le film, le livre d'Orson...
George Orwell.
George Orwell. On va dire Orson Welles. Merci de me rattraper. Personne n'a entendu. Et là, cette série-là, c'est un monde futuriste, parfait, aseptisé. On suit Will Jones, qui est le personnage principal et qui est... Lui, il fait la même affaire qu'on a déjà vu dans 1984. Il reçoit des données. Il faut qu'ils effacent ou il faut qu'ils adaptent au goût du jour. On réécrit l'histoire. Fait que là, lui, il faut qu'il lisse le passé et les archives, les dossiers et un dossier en particulier, tout ce qui concerne le communisme et des idéologies du 20e siècle. Fait que là, on est vraiment dans 1984.
Ouais.
Et là, on se dit, OK, là, c'est-tu un hommage? C'est-tu un revamp de 1984? On appelle ça Utopie. À date, ça ressemble à ça. Ça ressemble aussi un peu à Soleil Vert. Je ne sais pas si vous vous rappelez de le film original Soleil Vert. C'est qu'après un certain temps, c'est un monde futuriste artificiel, c'est que après un certain âge, les gens, on les met à la retraite, un peu comme notre société, mais ils ont une date de bye-bye, on te met à off. Fait qu'il y a ce côté-là. Et là, chez lui, cet homme-là, a un personnage, là, excusez, là, c'est... Moi, quand j'ai lu ça, c'est comme... C'est là que j'ai décroché. Le personnage robotique féminin qui lui sert qui fait la bouffe, le ménage et quanti tutti, elle s'appelle Babe. Fait que là, je suis comme... OK, là, attends, là, les clichés, bon.
C'est juste un robot, hein?
C'est juste
un objet.
Robot. Et là, les femmes humaines ont aussi leur... sont pas oubliées, ils ont leur penchant robotique masculin qui font les travaux ménagers, eux aussi, et qui accompagnent madame à l'épicerie et compagnie. Fait que ça, c'est un petit peu... on nous présente l'univers.
C'est pour humaniser le robot.
Oui. Les AI, l'intelligence artificielle, exactement. Et là, le personnage principal, après sa journée aux archives, on va dire, ben il participe à une série interactive, un peu comme vous êtes le héros. Fait qu'il joue dans un monde virtuel, puis là, il se bat contre, admettons, des trolls, des bébites, puis il joue là-dedans. Il joue là-dedans, puis le lendemain, il voit ses collègues au travail, puis il dit « Ah, qu'est-ce que t'as fait hier? » »« Ah, ben, j'ai joué, je me suis rendu à telle place. » Mais je trouve que ça va trop vite, comme après une demi-heure, c'est fini, puis j'en voudrais plus. Fait qu'il y a un de ses amis qui s'appelle Nigel, puis lui, il est le commandant de la brigade de nettoyeurs. Et là, on est à côté du recteur du film qu'on vient de parler. Parce que lui, il retire tout de la société. Tous les artefacts des délinquants. Fait que tout ce qui n'est pas conforme, lui, il rentre dans ton appartement, il y a des guns à pression, il t'enlève tout ça, puis il enferme ces délinquants-là. Fait que là, on est très proche.
Fait que l'histoire est recyclée.
L'histoire est recyclée en bande dessinée. Et c'était bizarre que je vois le film et que je lis cette bande dessinée-là, Utopie, qui est dans les eaux de tout ça. Et le matin, quand on se voit, à la place de se dire « Salut, Nelson, salut, César », c'est « Ciel bleu et vie rose ». Ça veut dire à peu près comme t'as pris tes médicaments, tu vois la vie en rose, tu te questionnes pas, tu sais ce que t'as à faire. La société est une ruche, t'es une petite abeille dans la ruche. Okay. M'en disant pas plus, t'as ton rôle et c'est ça. Le dessin, il est mi-réalité, il est peu détaillé, il y a peu de rebondissements, on s'attend à plus. Moi, je vous le conseille parce qu'avec Rodolphe, j'ai jamais été déçu. Son collègue Griffo, je le connais pas, mais j'imagine que c'est le début d'une histoire. Mais à date, on est dans le monde utopique, justement, ça porte le titre, Utopique 1984. Tout cet univers-là qu'on connaît déjà.
Marc-André, c'est déjà de la fin de l'émission.
Non, je ne veux pas.
Il reste juste un 20 secondes, donc on a juste le temps de dire...
Oui.
Ben merci d'abord pour la recommandation.
Oui.
De Utopie, la bande dessinée de Rodolphe et Griffo.
Exactement.
Merci César pour tes suggestions musicales.
Merci beaucoup.
Merci Marc-André. À et à nos auditeurs, on se revoit la semaine prochaine. Restez sur les ondes de CKUT 90,3 FM.
Centième bientôt.
Gente, sigan escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte. Sólido, es la guaracha de un camacho, de este macho inquisidor, de su gazpacho melancólico, el buen salvaje de la turma, capaz de la suma, comunidad se entreteje y ahora pulula, aprieta mano que el gusano no bendice.
¿Eres estudiante de periodismo? El premio RFI Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Envía tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en la redacción de RFI en Español en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar. Todos los requisitos en rfimundo.com.
El ganador se conocerá el 30 de mayo en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 2024 en Francia.
Fechocalipsis Tour 2024 en vivo en el Bell Center, sábado 1 de junio. Boletos a la venta ya en evenco.ca.
Vous écoutez CKUT 90.3 FM à Montréal et vous êtes avec Bogad. Yay!
Que viva Montreal, la montaña, belleza natural, del oeste hasta el este, para el sur y los barrios del norte.
We are now